Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et de reprendre la route avec vous. Notre première destination sera sud-américaine. Le Venezuela est à nouveau en ébullition. La rue demande le départ de Nicolas Maduro. Et nous allons faire connaissance avec ceux que le président recrute, des habitants transformés en miliciens prêts à se battre pour défendre la révolution bolivarienne. On posera ensuite les valises entre Strasbourg et Bruxelles. À 3 semaines des élections, vous vivrez la journée plutôt très active d'un député européen. En quoi consiste leur job? Sont-ils perçus de la même manière dans tous les pays de l'Union? Isabelle Horry sera avec nous pour nous expliquer. Un empereur abdique, son fils prend la relève. C'était semaine de fête au Japon où commence la nouvelle ère de Reiwa, celle du règne de l'empereur Naruhito. Même si au passage, les Japonais sont plutôt embarrassés des 10 jours exceptionnels de vacances qui leur sont octroyés. Reportage bien sûr et décryptage avec l'un des meilleurs spécialistes du Japon, Jean-Marie Bouissou. Et puis je recevrai le réalisateur de Coming Out, un documentaire sur la manière dont les jeunes, de plus en plus souvent, filment ce moment où ils révèlent leur homosexualité à leur famille. Denis Parot vient nous voir avec Artem, l'un des protagonistes du film, violoniste russe, aujourd'hui exilé. Avec Nicolas Caro, nous évoquerons la Chine, celle de Tiananmen il y a 30 ans. Et Joseph Chovanec partagera avec nous quelques souvenirs culinaires de ses voyages. Les carnets sont ouverts, direction Caracas. Qu'est-ce que l'opposant vénézuélien Juan Guaido avait en tête mardi soir en lançant ce qu'il a appelé l'opération Liberté, entouré de quelques soldats insurgés? La tentative de soulèvement a fait pchit, mais elle a eu pour effet de refaire sortir les Vénézuéliens dans les rues et l'opposition compte ses morts, ses blessés et les arrestations jour après jour. Nicolas Maduro, le successeur de Chavez, résiste et il s'appuie notamment sur la milice bolivarienne, des bénévoles fanatisés et prêts à prendre les armes. Ils étaient 300 000 dans le pays l'année dernière, mais Maduro a recruté, il serait désormais 2 millions. Qui sont ces Vénézuéliens prêts à tout pour sauver le régime? Laurence Cuvillier en a rencontré à Caracas. Écoutez, reportage édifiant.
L'immense esplanade de Fuerte Tiuna à Caracas résonne de milliers de voix. Celle des nouveaux miliciens venus prêter serment devant leur président Nicolas Maduro.
Jurez-vous par le Dieu de nos pères et devant notre drapeau que nous ne baisserons pas les armes et lutterons aux côtés de nos forces armées bolivariennes pour défendre notre nation face aux agressions impérialistes jusqu'à perdre la vie s'il le faut. Le jurez-vous?
Oui, nous le jurons.
Ce qui les unit, c'est une fidélité indéfectible aux idéaux d'Hugo Chavez. Ils sont vêtus d'amples uniformes beiges, presque tous sont d'origine modeste et environ un quart d'entre eux a passé l'âge de la retraite, tout comme la plupart de leurs armes.
C'est un fusil de la Deuxième Guerre mondiale.
Et vous êtes prêt à défendre votre pays avec ça?
Oui, je vais faire exploser des têtes.
Selon Nicolas Maduro, le pays compterait désormais plus de 2 millions de miliciens. Un chiffre impossible à vérifier, mais il s'agit de gonfler les muscles face à une opposition de plus en plus menaçante et qui a le soutien officiel de la plupart des puissances occidentales.
Eux, ils ont la force d'un empire. Mais nous, le peuple en armes, nous connaissons notre territoire. Et nous savons comment le défendre. Eux, non. Et on donnera nos vies, s'il le faut. Mais nous ne permettrons pas qu'ils s'emparent du Venezuela.
Sol et ses amis n'ont reçu qu'un entraînement rudimentaire. Mais leur détermination est sans faille.
Je sais que je serai en première ligne et je serai prête à recevoir des balles pour protéger nos jeunes et sauver mes enfants. Et on se moque de nous parce qu'on est vieux, mais on est important parce que ma main ne tremblera pas au moment où je déclencherai la bombe pour me faire exploser au milieu des lignes ennemies.
Je rencontre dans un parc de Caracas deux jeunes femmes d'une trentaine d'années, Jessica et Juliana. Elles ont rejoint la milice il y a quelques mois. Élégantes et en talons hauts, il est difficile de les imaginer le fusil à la main. Et pourtant, chaque semaine...
Le samedi matin, on apprend la base de la discipline militaire.
cómo tienes que saludar de manera correcta.
Avoir une posture ferme, saluer correctement.
En cuanto a la parte
et on a aussi des activités d'idéologie politique.
Ils nous apprennent des tactiques de défense du territoire en cas de conflit, même si on espère que ça n'arrivera pas.
Jessica et Juliana sont bénévoles. Elles font partie des réservistes. D'autres miliciens rendent des services rémunérés, de menus tâches de sécurité comme surveiller des bâtiments publics ou des stations de métro.
On fait ça par amour pour notre patrie, parce que grâce à Chavez, nous, on sait d'où on vient. Et cette guerre, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle dure depuis 500 ans, depuis que les Européens sont arrivés pour massacrer les peuples précolombiens. Depuis, le pays n'avait pas cessé d'être une colonie.
Qu'est-ce que vous ferez si Maduro tombe ?
Je continuerai de me battre pour mon pays. Mais il ne va pas tomber, c'est sûr. Il ne tombera pas tant que nous le soutiendrons.
C'était à peine quelques jours avant l'opération Liberté menée par Juan Guaido, rejoint par une partie de l'armée. Caracas, Laurence Cuvillier, Europe 1.
Voilà, retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Laurence Cuvillier qui a regagné ses pénates à Mexico. Bonjour Laurence.
Bonjour Sophie.
La situation est à nouveau extrêmement troublée depuis quelques jours. Quel rôle pourrait jouer cette milice bolivarienne dans ce contexte ?
Eh bien, vous l'aurez compris, Maduro peut en tout cas compter sur eux pour être un dernier rempart en cas d'attaque militaire. Cela dit, depuis que la milice bolivarienne a été créée, il y a 10 ans, le scénario qu'on leur a appris à exécuter, c'est la réponse à une intervention militaire américaine. Mais les miliciens semblent avoir refusé d'envisager le scénario qui est en train de se jouer maintenant dans le pays, c'est-à-dire le chaos et les affrontements de rue entre vénézuéliens pro et anti-chavistes. Alors en fait, le discours officiel mentionne comme seul et unique ennemi les Américains et leurs alliés. Ils n'envisagent pas le cas où les miliciens devraient tourner leurs armes contre leurs compatriotes. Et d'ailleurs, Nicolas Maduro fait toujours comme si les Vénézuéliens étaient encore unis par leur foi dans le chavisme. Il continue de nier qu'une grande partie du pays est en ce moment dans les rues pour réclamer son départ et il nie surtout l'existence d'une crise humanitaire.
Alors vous avez passé du temps au contact des Vénézuéliens. Est-ce que vous aviez senti monter ce coup de chaud ?
Voilà, effectivement, je l'avais déjà senti lors de précédents séjours sur place, mais c'est allé en s'accentuant. Et là, clairement, les Vénézuéliens sont à bout de nerfs et à bout de force. En fait, j'étais cette fois-ci à Maracaibo, qui est la deuxième ville du pays, qui était autrefois une ville prospère et avant-gardiste. Et je me suis rendu compte que, loin de Caracas, la situation est encore pire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'électricité. C'est des avenues entières de commerces fermés. Et je voudrais vous faire écouter Olivia, qui est une ancienne directrice d'école, qui m'a reçue chez elle. Nous étions dans sa cuisine où je n'ai vu comme toute nourriture que 5 petites bananes sur une table.
Je gagne une retraite parce que j'ai travaillé toute ma vie. C'est une retraite de 18 000 bolivars par mois. Et qu'est-ce que j'ai pu acheter avec ça ? 1 kilo de pâte, un paquet de farine ? Et un petit bout de fromage, c'est tout. Un mois de retraite pour une journée de nourriture. Moi, je préfère que les États-Unis interviennent et que meurent ceux qui devront mourir, mais que les autres puissent être sauvés et se rassasier. Parce que cette faim, c'est terrible. Ils sont en train de nous tuer par la faim et les privations. Ça fait 20 ans qu'on supporte ça. 20 ans qu'on espère et qu'on prie. Il ne nous reste plus que Dieu. C'est pour ça que je demande une intervention militaire. Je vous en supplie, à genoux, au nom de Dieu, intervenez.
Alors, c'était très surprenant et même parfois gênant pour moi parce que ce n'est pas la seule à avoir exprimé à mon micro le souhait d'une intervention militaire américaine. Je ne crois pas qu'il soit naïf en ce qui concerne les motifs de cet intérêt américain pour le Venezuela. Ils savent que c'est un relent de sordide guerre froide qui se joue à leur détriment. Mais ils ont atteint en fait un tel stade de désespoir dans un pays complètement disloqué économiquement qu'ils sont prêts à livrer leur territoire à qui que ce soit d'autre que Maduro pour avoir à manger tout simplement.
Ce témoignage était vraiment très émouvant. Et il y a un chiffre délirant qui résume cette situation intenable. Selon le FMI, l'hyperinflation pourrait atteindre 10 millions de pourcents. Voilà, on ne comprend même plus ce que ça veut dire. En tout cas, on suivra la situation dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Laurence Cuvillier. À très bientôt dans les carnets.
À bientôt, Sophie. Europe 1.
À suivre, une séquence qui pourrait s'appeler « Vie ma vie » de député européen. Dans 3 semaines, on vote pour choisir nos futurs élus à Strasbourg et Bruxelles. On va voir comment ces députés issus de toute l'Europe travaillent ensemble.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h sur Europe 1. Et maintenant, Sophie Larmoyer, on va mettre un coup de projecteur sur la fonction de député européen.
C'était vendredi la date limite de dépôt des listes. Et dans 3 semaines, nous voterons donc en France pour choisir nos 79 députés européens. Ou peut-être temporairement 74 députés seulement, ça dépendra des Britanniques. Si oui ou non, il reste encore quelques mois dans l'Union européenne. Notre spécialiste des questions européennes, Isabelle Horry, est avec nous pour en parler. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Alors on les connaît souvent mal, nos députés européens. Pourtant, nombre d'entre eux se démènent au quotidien. Exercer sérieusement son mandat de député européen, c'est tout sauf une sinécure. Pour s'en rendre compte, on va d'abord écouter votre reportage. Isabelle, vous avez suivi le temps d'une journée. Le socialiste Éric Andrieux, élu sortant et candidat à nouveau, c'est parti.
Son sac sur le dos, Éric Andrieux arrive ce lundi matin à son bureau de Bruxelles. Chaque mois, il navigue entre la capitale belge, Strasbourg, où ont lieu les sessions plénières du Parlement européen, et Narbonne, où se trouve sa permanence.
C'est vrai que ce sont des rythmes à la fois de déplacement, des rythmes de stress. Il faut arriver à l'heure à l'avion, il ne faut pas tomber en panne sur la route. C'est une vie de nomade. Quelquefois, lorsqu'on se réveille le matin, on ne sait pas trop finalement où l'on est, pour tout vous dire. Vous voyez. Donc il faut quelques secondes d'adaptation pour savoir où l'on se trouve. Salut.
Bonjour.
Ça a été ? Vous avez passé un bon week-end ?
L'eurodéputé retrouve quand même sans problème le chemin de son bureau où l'attendent ses assistants parlementaires.
On se voit là tout de suite pour le planning ? Ok ? Il y a des chances que je revienne sur Paris donc mercredi pour revenir jeudi en plénière et repartir sur Paris vendredi.
Pendant cette législature, l'élu socialiste s'est spécialisé dans les sujets agricoles et leur lien avec la santé. Il a notamment présidé la commission d'enquête sur le glyphosate. Mais il est aussi rapporteur de l'un des textes de réforme de la politique agricole commune, un texte de loi très technique qui doit justement être adopté aujourd'hui en commission parlementaire. Dans les bureaux voisins, des collègues venus d'autres pays sont également en train de préparer les réunions de la semaine. Raphaël Delarue, le principal collaborateur du député, joue les guides pour nous.
Alors ici, on est au 14e étage d'une des 2 tours du Parlement européen. C'est dans cette tour que siègent les libéraux, les verts et les sociaux-démocrates. À cet étage, vous avez les Français qui sont au même étage que les Maltais, que les Danois, que les Suédois et que les Portugais. Vous avez par exemple notre collègue Ludvigsson, voilà, qui vient de Suède. Et vous avez ici Ana Gomes, qui est de la délégation portugaise des sociaux-démocrates. Donc on est tous ensemble dans le même étage, et ce qui donne lieu parfois effectivement aussi à des réunions ensemble.
D'ailleurs, au Parlement européen, mieux vaut parler plusieurs langues pour pouvoir collaborer efficacement avec les autres élus et se trouver des alliés.
Bon, l'anglais, c'est important. Au moins, parler l'anglais passif, évidemment, comprendre, pour pouvoir échanger et négocier. Moi, je parle un peu d'espagnol, parce que c'est une langue voilà, du sud et qui est latine et qui me va bien. On baragouine, je vais dire. Mais en tous les cas, on se comprend. Más complicado, non ? Más difícil.
C'est l'heure du vote en commission de l'agriculture. Jusqu'à la dernière minute, les eurodéputés viennent essayer de peser sur tel ou tel point. La séance est longue et fastidieuse. À chaque amendement, le rapporteur lève le pouce vers le haut ou le bas pour indiquer à son groupe politique comment voter. Finalement, la réforme de l'organisation des marchés est adoptée à plus de 80% des voix.
Soulagé parce que c'est le fruit d'un long travail, hein. Plusieurs mois, très intense. Faire de la législation européenne, c'est pas simple, voilà, on va dire ça comme ça, parce que ça fait référence aux traités, tout un tas de règlements, on modifie les règlements existants. Donc c'est un vrai travail de moine, voilà, de bénédictin.
Dernière étape, il faut tenir une conférence de presse pour expliquer le résultat du vote. Mais il est 19h et la salle de presse est vide à part un vaillant journaliste. C'est un peu surréaliste. Pas grave, Éric Andrieux se lance.
À celles et ceux qui nous suivent derrière leur petit écran.
Pas toujours facile pour les députés européens d'attirer l'attention médiatique.
C'est pas simple parce que les médias nationaux ne sont pas toujours enclins à traiter les sujets européens. Ils ne les traitent que dès lors qu'il y a de l'incident ou de l'événement. quand un agriculteur californien gagne un procès contre Monsanto, évidemment, là, c'est une accroche importante, laquelle nous, on va pouvoir relayer le contenu de nos travaux.
À plus de 80% des membres de la commission.
Il est 20h, mais la journée n'est pas terminée. Ce soir, l'élu de Narbonne a encore une réunion pour se coordonner avec ses collègues sur les prochains votes du lendemain.
Voilà la longue journée d'un député européen. Isabelle Horry donc est avec nous, exceptionnellement parisienne. Ce travail, Isabelle, il est assez peu médiatique finalement, mais ça ne l'empêche pas d'être très opérationnel. Les élus ont vraiment les mains dans le cambouis de la législation, si on peut dire.
Oui, c'est vraiment un travail d'expert. Hein. Par exemple, le rapport sur l'organisation des marchés agricoles dont Éric Andrieux avait la charge, il est à la fois très technique et très pratique. Mmh. Il va avoir des conséquences sur la vie des agriculteurs sur tout le continent. Et ça, ça n'est qu'un exemple. En voici un autre. Rosa Thun est une élue polonaise conservatrice et elle a été en charge d'un texte qui prévoit la mise en place de limiteurs de vitesse dans les voitures d'ici 3 ans.
Je travaille sur les sujets très concrets qui touchent la vie de tout le monde dans l'Union européenne, la vie de tous les jours, la vie quotidienne. J'essaie d'expliquer à mes électeurs, aux Polonais, que ce n'est pas un club de discussion, mais que les gens qui sont ici s'occupent des choses qui nous touchent et qu'il faut voir ce que nous faisons et il faut nous aussi communiquer ce que les Polonais attendent de nous.
Voilà, effectivement, c'est concret. Et il y a une grande différence avec notre système parlementaire français. Au Parlement européen, chaque élu a une réelle autonomie. Les majorités se construisent indépendamment des partis.
Exactement. Il n'y a pas de discipline de parti. Ainsi, récemment, il y a eu la réforme du droit d'auteur. On en avait beaucoup parlé. Hein. Mieux payer les artistes à l'ère des plateformes numériques comme YouTube. Eh bien, ce texte divisait absolument toutes les familles politiques européennes. Donc, pour trouver une majorité à Strasbourg, eh bien, il faut désallier et il faut savoir faire des compromis. Ce qui n'est pas toujours simple dans cette tour de Babel, raconte Rosa Thun.
Nous sommes pas seulement des groupes politiques divers, très divers même, mais aussi nous sommes de 28 pays et il faut voir les sensibilités de chacun qui sont différentes et il faut s'écouter mutuellement et trouver des solutions qui vont bien fonctionner pour tout le monde et être capable d'accepter les compromis, c'est très difficile. Il y a les situations où j'ai du mal. Le grand défi, c'est communiquer ses propres attentes ou les attentes plutôt de ma circonscription ou de mon pays, écouter aux attentes des autres. On voit la diversité européenne, c'est une extrêmement bonne école pour ceux qui vont s'occuper après de la politique dans son propre pays.
Ouais, c'est vraiment une culture, hein, le compromis. Et donc, mieux vaut parler plusieurs langues, comme on l'entendait dans votre reportage, Isabelle. Est-ce que dans tout ça, les Français tirent leur épingle du jeu ?
Eh bien, modérément, pour plusieurs raisons. Alors, on le sait, le Parlement européen nous sert un peu de cimetière des éléphants. Hein. Ouais. Certains noms de la politique nationale y siègent sans faire grand-chose. Mais surtout, les partis ne capitalisent pas assez sur les bons élus qu'ils peuvent avoir. Alors qu'il faut souvent 2 mandats pour devenir vraiment expert. Et cette fois encore, certains sortants compétents ne sont pas reconduits. Mais bon, quand même, malgré tout, la France a quelques poids lourds universellement respectés. Écoutez la centriste italienne Mercedes Bresso.
Les Français pèsent ici comme parlementaires et le renouvellement ne me paraît pas si rapide. Je vais justement maintenant prendre le pot de départ avec Pervenche Berès et M. Lamassoure. Bon, c'est des parlementaires qui sont restés longtemps ici et qui ont beaucoup compté dans le Parlement.
Ah, qui ont beaucoup compté, mais dont les noms sont finalement quand même assez peu connus en France, il faut bien le reconnaître. Isabelle, est-ce que ça se passe de la même manière chez nos voisins ?
À peu près, en fait. Quand les élus sont connus dans leur pays, c'est souvent en raison de leur fonction précédente. Ouais. Par exemple, Mercedes Bresso, elle était présidente de région. En plus, en Italie, les électeurs peuvent choisir des noms sur les listes au moment des élections.
Mon collège, qui est le nord-ouest de l'Italie, il comprend la Lombardie, le Piémont, la Ligurie, la Vallée d'Aoste, 17 millions d'habitants. Donc il faut être connu avant. Normalement, chez nous, les candidats européens sont des leaders locaux, par exemple maire de Granville, président de région, ou personnes qui ont déjà de toute façon un profil politique très facile à distinguer, parce qu'il faut écrire le nom de la personne. Donc comme vous voyez, il faut être connu.
Mais bon, il y a une constante hein, partout en Europe, de la Pologne à l'Italie en passant par le reste du continent. Les députés européens ont du mal à exister dans les grands médias. Ouais. C'est seulement au moment des élections européennes, une fois tous les 5 ans, que les élus ont droit à un coup de projecteur.
Oui, on aura participé à la mise en lumière aujourd'hui, même si ici dans les carnets, on parle souvent d'Europe, notamment grâce à vous. Merci beaucoup Isabelle, à très
vite. À bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer, 13h22, c'est le moment où l'on se pose pour se plonger dans un livre avec Nicolas Carreau.
Un livre dans le monde, c'est une autre manière de voyager dans l'espace et dans le temps aussi parfois. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Vous nous proposez une escale en Chine cette semaine, à un moment particulier de l'histoire chinoise.
Et une fois n'est pas coutume, c'est une BD aujourd'hui, pas un roman. Elle est éditée chez Delcourt, ça s'appelle Tiananmen 1989, sous-titré « Nos espoirs brisés ». C'est un livre de souvenirs. Le narrateur, la voix off de la BD, c'est Lun Zhang. Il vit en France maintenant, mais il est né en Chine. Il se souvient et il nous raconte les événements qui conduiront à Tiananmen, la tentative de révolte des étudiants en 89, à laquelle il a d'ailleurs participé. Ça commence bien avant, en fait, à la fin des années 50. C'est la révolution culturelle. Il est enfant et il suit ses parents. Ses parents sont des intellectuels et donc ils sont envoyés dans les champs pour être rééduqués. Ouais. Le matin, Lun Zhang étudie et ensuite il file dans la rizière pour piquer.
Mais ça ne dure pas, la révolution culturelle.
Non, effectivement, et au bout de quelques années, il peut regagner la ville et ses parents aussi. Surtout, en 76, Mao meurt et la Chine se libère un peu. L'horizon s'éclaircit. Dans la rue, les vêtements prennent des couleurs, nous raconte Lun Zhang. Je suis stupéfait d'observer les balles s'improviser dans les parcs. Ainsi s'éloignent à grands pas les sombres années 70. Les Chinois y ont cru à ce moment-là, comme me l'a expliqué le co-auteur du livre, Adrien Gombeau.
C'est quelque chose qu'on a un peu oublié parce que c'est vrai que quand on parle de l'ouverture de la Chine, souvent on fait référence aux années 90. Or, c'est quelque chose qui commence à partir de la fin des années 70 avec Deng Xiaoping qui tout à coup met fin à toutes ces années de plomb du maoïsme. Et là, à ce moment-là, la Chine s'ouvre et les gens de la génération de Lun vont profiter de ça, c'est-à-dire de voyager librement, de pouvoir aller à Pékin, justement, découvrir la capitale et participer à des réformes économiques importantes qui vont changer le visage de la Chine.
Ça s'ouvre, Nicolas, mais économiquement surtout.
Oui, du point de vue de la démocratie, c'est pas encore ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les étudiants vont commencer à s'organiser. C'est très bien illustré dans la BD. Les étudiants créent des salons en français dans le texte, c'est-à-dire des lieux de rencontres et de discussions, comme pendant les Lumières en France. Ils publient des articles, un peu clandestins, mais quand même. Ils demandent plus de liberté, plus de démocratie. Et c'est ce mouvement qui va mener à Tiananmen. Alors moi, je vous le dis vite, mais on comprend tout le processus, tout ce qui a mené à cette occupation de la place par des centaines de milliers de jeunes chinois. Et ça va durer plusieurs semaines avant le massacre.
Comment le gouvernement chinois se comporte ?
Ben, au début, il ne se passait rien. Pas de réponse, mais pas de répression non plus. Ouais. Et voilà pourquoi.
Au départ, l'attitude de Deng Xiaoping est déconcertante. C'est-à-dire que lui, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il attend un événement qu'il pense beaucoup plus important que cette occupation, qui est la visite de Mikhail Gorbatchev. Et donc, il veut que Pékin soit sous ses plus beaux atours. Il est hors de question pour lui de mettre en place une répression, alors même que Mikhail Gorbatchev, qui est à l'époque, il faut rappeler, une superstar de la politique, va atterrir à Pékin. Et donc, les étudiants sont là et l'armée attend. Et en réalité, ce que Lun Zhang, qui était un observateur important de l'époque, nous apprend, c'est que l'armée attend en réalité un dérapage pour pouvoir intervenir. Et ce dérapage n'arrive pas.
Mais ça ne va pas durer.
Et non, ça se terminera en massacre. Ah ouais. Des étudiants arrêtés, traqués, beaucoup s'exilent d'ailleurs. Et c'est pour ça que Lun Zhang est parti en France. Reste le symbole de Tiananmen, même si les autorités chinoises aujourd'hui essayent d'effacer cet événement des mémoires. Le nom Tiananmen est un symbole à lui tout seul. L'image aussi de l'homme, vous savez, qui se tient face à des chars d'assaut, image célébrissime. On voit un type devant le char et le char qui est bloqué. En fait, cette image de résistance, au départ, elle a paradoxalement beaucoup plu au gouvernement. Adrien Gombeau.
Le pouvoir, au départ, découvrant cette image, ne voit pas là un symbole de résistance, mais au contraire un symbole d'humanisme de la part du conducteur de char. Et donc, il existe des archives assez surprenantes où on voit les commentateurs chinois de l'époque dire « Vous voyez bien que l'armée n'a pas commis de massacre puisque ce char tente d'éviter cet homme qui s'entête à se mettre devant lui. » Et ça, c'est la vision officielle du pouvoir. Mais aujourd'hui, l'image est tellement mondialement connue que cette image a disparu de Chine.
Intéressant de voir différentes lectures d'une même image comme ça. Et puis c'est aussi avec les symboles, évidemment, qu'on fait changer les choses.
Oui, et avec ce genre de témoignage, cette BD, Tiananmen 1989 de Lun Zhang, Adrien Gombeau, et des dessins d'Amézian, des dessins très sobres, très épurés.
Ouais, c'est très beau. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Sophie.
Europe 1.
On reste en Asie, direction le pays du soleil levant. Les Japonais ont un nouvel empereur depuis mercredi, sans devoir pleurer le précédent. Et ça, c'est très nouveau. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h28, on prend maintenant la direction du Japon qui depuis quelques jours a un nouvel empereur, Sophie Larmoyer.
Mardi, l'empereur Akihito abdiquait après 30 ans de règne et le lendemain, mercredi, son fils Naruhito lui succédait. Moment historique pour les Japonais. On va donc voir un peu comment ils ont vécu ce moment. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Vous étiez donc aux premières loges pour constater que les Japonais ont fait la fête.
Oui, oui, mardi soir ici, on se serait cru au Nouvel An. Beaucoup de gens sont descendus dans les rues pour décompter, tous ensemble, les dernières secondes avant minuit. Vu que c'est à minuit que le règne de Naruhito a officiellement débuté. Ouais. Puis les Japonais ont fait la fête toute la nuit. Le Japon n'avait plus changé d'ère impériale aussi joyeusement depuis plus de deux siècles. Parce que jusqu'à présent, c'était à la mort de l'empereur que se déroulait la succession. Donc il y avait chaque fois une période de deuil à respecter. Mais Akihito, lui, a obtenu de céder le trône de son vivant. Ça change tout, évidemment, en termes d'ambiance. Ouais.
Et pourtant, derrière cette liesse populaire que vous décrivez, Bernard, il y a certaines inquiétudes. Expliquez-nous.
Ce n'est pas une inquiétude à propos du nouvel empereur Naruhito, qui est très populaire. D'autant plus qu'il a promis que, comme son père, il sera un empereur proche des gens. Ce qui tracasse les Japonais, c'est l'avenir de la monarchie. Ici, le trône est interdit aux femmes. Or, dans la famille impériale, qui compte beaucoup plus de femmes que d'hommes, il n'y a plus que deux hommes susceptibles de succéder un jour à Naruhito. Donc un seul et unique pour la prochaine génération. Ça risque de poser problème au siècle prochain. À plus court terme, une autre préoccupation, c'est Masako, l'épouse de Naruhito. Elle était en dépression pendant plus de 10 ans, car elle était énormément critiquée dans les médias ou dans la classe politique pour n'avoir jamais réussi à mettre au monde un héritier au trône. Elle et Naruhito n'ont qu'une fille. Masako semble aller mieux ces derniers temps. Il n'empêche, beaucoup de Japonais s'inquiètent. Écoutez ces trois habitantes de Tokyo à qui j'ai tendu le micro.
Je me fais du souci pour sa santé. Elle a subi tellement de pression. On a vraiment été odieux avec elle. C'est une femme brillante. Elle est bardée de diplômes, polyglotte, diplomate de carrière. Moi, en tout cas, je lui fais totalement confiance dans sa fonction d'impératrice.
Son intelligence et sa force de caractère lui ont permis de surmonter les épreuves. Mais selon moi, ça va être extrêmement dur pour elle au palais.
Je me suis fait un sang d'encre pour Masako pendant des années. Mais ça n'est plus le cas parce que pendant les cérémonies, cette semaine, elle était radieuse, elle avait l'air en forme. Donc à mon avis, tout va bien se passer.
Alors fin mai, on verra si Masako est aux côtés de son mari, l'empereur, quand il recevra Donald Trump. Dans l'immédiat, Bernard, grâce à cette succession impériale, les Japonais ont droit à 10 jours de congés exceptionnels. Et là, on se dit formidable pour eux qui travaillent tellement tout le temps. Mais en fait, non. Selon les sondages, m'avez-vous dit, une majorité d'entre eux n'est pas du tout ravie de ces 10 jours de vacances. Il y a comme une sorte de fossé culturel entre eux et nous. Il faut que vous nous expliquiez ça.
Alors imaginez d'abord que ce congé pose des problèmes d'organisation à pas mal de gens, comme ses deux parents par exemple.
Moi, toute cette semaine, je bosse, donc je ne peux pas m'occuper des gosses. J'aurais préféré qu'il y ait école.
Toutes les écoles sont fermées, ainsi que la plupart des crèches. C'est vraiment pas pratique pour les mamans qui travaillent. En plus, les cabinets médicaux et les dispensaires, eux aussi, sont fermés. Seules les urgences des grands hôpitaux fonctionnent, et ça stresse beaucoup les personnes âgées.
Vous l'avez compris, beaucoup ne prendront pas de vacances pour des raisons économiques aussi. Écoutez ces deux hommes, un employé de bureau d'abord, puis un marchand de fruits et légumes qui réalise la majorité de son chiffre d'affaires grâce aux cantines des écoles du quartier, qui sont fermées cette semaine.
J'ai juste posé 2 jours de congé. Plus, c'était vraiment pas possible, je suis débordé de travail.
Ça ne fait pas vraiment mon affaire, ces 10 jours de congé scolaire. Je vais les payer comment, mes factures, avec un tiers de vente en moins sur le mois? Mais bon, c'est comme ça, il n'y a rien à faire.
Ce congé, c'est une perte sèche aussi pour tous les travailleurs précaires qui sont rémunérés à la journée. Si leur entreprise ferme pendant 10 jours, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. L'autre jour, Sophie, un magazine populaire a titré « Seuls les riches se réjouissent de ces vacances ».
Et ben voilà, et on en revient comme souvent à évoquer le rapport des Japonais au travail. Merci beaucoup Bernard pour ce petit coup de projecteur sur la manière dont une page d'histoire a été tournée au pays du soleil levant. Je vous dis à très bientôt.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Et on va poursuivre ce décryptage avec l'un des meilleurs spécialistes du Japon, Jean-Marie Bouissou, historien et chercheur à Sciences Po pendant plus de 25 ans. Quelle est cette nouvelle ère qui s'ouvre au Japon? Quelle place y occupe l'empereur? Voici d'abord quelques-uns des tout premiers mots de Naruhito, c'était mercredi.
Je promets d'agir conformément à la Constitution et d'assumer ma responsabilité en tant que symbole de l'État et de l'unité du peuple japonais, tout en tournant à chaque instant mes pensées vers la population en me tenant à ses côtés. Je prie sincèrement pour le bonheur des gens et le développement futur de la nation, ainsi que pour la paix dans le monde.
Bonjour Jean-Marie Bouissou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous nous répondez depuis Tokyo, où vous vivez et où vous continuez à représenter Sciences Po. On vient d'écouter un extrait du premier discours de l'empereur Naruhito. C'est évidemment très consensuel, hein, l'unité, le bonheur du peuple japonais, le développement futur de la nation. On sait que l'empereur n'a aucun rôle politique, mais alors c'est quoi ? Est-ce qu'il a une sorte de rôle de ciment pour le peuple japonais, pour la nation ?
Absolument. Les Japonais n'éprouvaient pas en tout cas un sentiment très fort vis-à-vis de l'empereur, mais ils n'imaginent tout simplement pas le Japon sans lui. Voilà. C'est ouais. Comme nous n'imaginons pas Paris sans Notre-Dame. Il a un côté monument symbolique, si vous voulez. Ouais. Et l'idée d'un Japon sans empereur, je pense qu'il n'y a pas 5% des Japonais qui y adhéreraient.
L'histoire officielle, c'est que c'est le successeur de la déesse du soleil Amaterasu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il n'est pas question de remettre en cause cette histoire officielle. Hein.
Absolument. Tous les médias ont imperturbablement dit que le nouvel empereur était le 127e. C'est évidemment un mythe complet. Ouais. L'Empire est censé avoir été créé très exactement, attention, un 6 février 660 avant Jésus-Christ. Ouais. C'est-à-dire le 6 février aujourd'hui, c'est férié.
Ouais. Jean-Marie Bouissou, est-ce que vous pensez que Naruhito va avoir son style et est-ce que la fonction le lui permet ?
La fonction de lui permet, son père l'a montré d'ailleurs, en se montrant très compatissant, très empathique envers tous ceux qui souffraient. On a des photos de lui qui étaient invraisemblables avant, il visite des réfugiés de Fukushima dans un gymnase, et il joue à marteau-ciseau-papier version japonaise avec un vieil homme. Et ensuite, il lui masse les épaules. Ça a vraiment gagné les cœurs des Japonais et nul doute que le nouvel empereur et son épouse, parce que son épouse joue aussi le rôle, vont marcher dans ces traces-là.
Dans votre dernier livre, Jean-Marie Bouissou, Les leçons du Japon, un pays très incorrect, vous expliquez les paradoxes de ce pays en décrivant à la fois une crise économique et sociale qui se sera finalement accentuée pendant tout le règne d'Akihito, qui vient d'abdiquer, un pays qui à la fois ne connaît pas le chômage mais où la pauvreté touche de plus en plus de monde. Un pays, écrivez-vous, où l'insatisfaction générale frise la dépression collective, mais où en même temps il règne une grande cohésion nationale. Est-ce que l'empereur fait partie de ce tableau-là ?
L'empereur fait partie, effectivement. On pourrait presque dire que plus ça va mal, plus l'empereur prend d'importance, au moins émotionnelle, parce que les politiciens sont de plus en plus déconsidérés. Non pas qu'on s'attende à le voir jouer un rôle politique, mais il est la preuve que le Japon a toujours tout surmonté. Voilà. Et le Japon, vous savez, si mal qu'il aille, a quand même deux atouts formidables. L'un qui est sa cohésion sociale. L'autre, c'est le fait que l'État a toujours un sens. Il est respecté, en particulier parce qu'il assure une sécurité quasiment parfaite à la population. Et enfin, une identité collective qui résiste bien. À la mondialisation.
Et vous dites que les Japonais font société beaucoup mieux que nous. Merci beaucoup Jean-Marie Bouissou de nous avoir apporté cet éclairage. Je suggère très fortement à ceux qui s'intéressent au Japon de lire votre livre. Il y a énormément de clés à l'intérieur pour comprendre cette société complexe. Les leçons du Japon, un pays très incorrect, c'est publié par Fayard. Merci, à une prochaine fois dans les carnets du monde.
À une prochaine fois.
Europe 1.
Il n'y a pas d'expression française équivalente, faire son coming out. De plus en plus, les jeunes filment ce moment si intime et souvent difficile où ils révèlent leur homosexualité. Les vidéos sont innombrables sur Internet, partout dans le monde. Depuis mercredi, au cinéma, c'est un film dont je reçois le réalisateur et l'un des protagonistes qui est russe. Ne bougez pas, ils arrivent.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est jusqu'à 14h avec vous, Sophie Larmoyer. On va maintenant parler d'un documentaire sorti cette semaine au cinéma.
Coming out, ce sont de courtes tranches de vie, des moments qui touchent au plus intime de ceux qui sont filmés. Ces moments où ils révèlent leur homosexualité. Coming out, c'est donc un film sorti mercredi dernier en salle et dont on parle dans les carnets aujourd'hui avec deux invités qui nous ont rejoints, Denis Parot et Artem. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Denis Parot, vous êtes le réalisateur de ce film et Artem, vous en êtes l'un des 19 protagonistes et vous êtes russe. Alors le titre du film est très clair. Un coming out, c'est le fait de dire à quelqu'un qu'on est homosexuel ou transgenre. Comme ici, Ulysse, qui est en France.
Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 21 décembre 2015. Il est exactement 20h45. Et ce soir est le grand soir. Je vais faire mon coming out en tant que transgenre à ma mère et mon beau-père. Je sais pas du tout comment ça va se passer.
Le soupir. Salut à tous, voilà comment commence une vidéo qu'on poste sur Internet. Quelques mots de la forme Denis Parot, c'est particulier, vous n'avez pas tourné ces images.
Non, tout à fait, oui, c'est une sorte de film d'archives, en fait, compte, mais d'archives ultra contemporaines. Voilà, c'est vraiment un phénomène très important sur Internet, qui est viral, qui a commencé, je pense, au début des années 2010, qui vient plutôt des États-Unis, mais qui s'est répandu partout dans le monde, où voilà, des jeunes se filment en train d'annoncer à leurs proches, à leurs parents, à leurs frères et sœurs qu'ils sont lesbiennes, gays, bi ou trans.
Et pourquoi ? Alors, quel est ce rôle de médium d'Internet ?
Je pense que ça apporte une grande aide à tous ces jeunes, parce que voilà, quand on est jeune LGBT, ça peut être difficile, on peut se sentir isolé. Et le fait de pouvoir communiquer avec d'autres, de communiquer son histoire, son vécu, dire comment ça s'est passé pour soi et pour les autres, c'est un témoignage qui aide le plus grand nombre.
Vous avez visionné combien de vidéos pour en retenir finalement 19, puisqu'il y en a 19 témoignages dans ce film.
Alors j'en ai visionné plus de 1200 et il y en a des nouvelles tous les jours. Donc à un moment, je me suis arrêté parce qu'il fallait finir le film. Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles vidéos tous les jours, c'est vraiment un phénomène viral.
Alors ces vidéos forment comme un grand portrait en pointillé, un portrait extrêmement varié finalement d'un moment. En regardant votre film, on constate que ça peut se passer très bien, et avec bienveillance, et même avec humour. Exemple, ce petit échange entre un ado, Dany, et sa mère. On comprend que ça fait plusieurs années qu'il lui a dit qu'il était gay, et ils en blaguent. « Maman, j'ai quelque chose à te dire », dit Daniel à sa mère, face caméra, dans un canapé. « Tu es enceinte », lui répond-elle.
« Mom ?»«
Yes, Daniel ?»«
I have something to tell you. »«
You're pregnant ?»«
No. »«
What ?»
Voilà, je ne sais pas comment te le dire, continue Dany en taquinant sa mère.
Mom, I don't know how to say this.
You're straight?
Voilà, tu es hétéro, lui répond sa mère du tac au tac. Ça se passe très bien entre eux. C'est très rigolo. Tout le monde rit dans la salle, hein, je peux en témoigner. Et puis parfois, c'est absolument terrible. Extrait de la vidéo d'un autre Daniel. Et ça se passe de toute traduction.
You're twisting my words. You are a completely different person.
Let me tell you something, you little bitch.
No, you're not gonna fucking hit me.
No.
You son of a bitch. Get off me, bitch. Get off me.
Let me tell you something.
She's the one that...
No. No. Stop it.
Get off of me. What's wrong with you?
Voilà, Denis Parot, en l'occurrence, Daniel filme surtout la moquette. Hein. On ne voit rien du tout, mais on entend cette violence au sein même de la famille, dans une pièce, entre plusieurs personnes. Finalement, à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi il a eu envie de filmer ça et pourquoi il a eu envie de le poster, malgré cette douleur extrême qu'on entend.
Je suis ému, pardon, à chaque fois que j'entends cette vidéo, à chaque fois ça me bouleverse. Ce qui s'est passé avec Daniel, c'est qu'en compte, ses parents l'ont convoqué. Il y a une sorte de convocation aux États-Unis. Voilà, donc il a été convoqué par sa famille. Donc il a su qu'il allait se passer quelque chose parce qu'il avait fait son coming out très récemment. Et donc il a lancé son smartphone sans savoir vraiment ce qui allait se passer. Et c'est ce qu'on voit dans le film.
Je me tourne vers Artem avec la même question. Mais d'abord, il faut qu'on dise quelques mots sur votre histoire, Artem. Je le disais, vous êtes russe et on sait qu'en Russie, c'est très dur pour les personnes LGBT. Une loi a été votée d'ailleurs il y a quelques années pour pénaliser la promotion de l'homosexualité, manière de faire taire quiconque voudrait en parler. Comment ça s'est passé pour vous dans votre famille, Artem ?
Well, that's a very loaded question.
C'est une question très chargée, mais merci de la poser. J'ai grandi dans une famille très chrétienne et très conservatrice, donc pour moi c'était un peu différent que pour certains Russes, car ce n'est pas que l'aspect culturel, il y a en plus l'aspect religieux de la discrimination et l'homophobie. Et malheureusement, mon coming out était très similaire à la violence de celui du second Daniel qu'on a entendu. Ça a été à peu près comme ça pour moi, et j'ai grandi dans une famille qui faisait tout le temps des commentaires sur la manière dont ils voudraient tuer les personnes gays. Mes frères disaient on devrait les mettre sur une île et tous les bombarder. Voilà, depuis tout petit, hein, j'ai entendu ce genre de commentaires dans ma famille. Donc ça faisait peur et malheureusement, celui qui en disait le plus est le premier qui a su pour mon homosexualité. C'est mon plus grand frère. C'est lui qui a lu mon journal intime et a tout découvert.
Comment l'avez-vous dit à votre mère, à votre famille ? En tête à tête ou au téléphone ?
It was over the phone.
Oui, c'était au téléphone, parce que je pensais que ce serait bien trop dur de le dire à ma mère en face. Et parce que je savais exactement ce qu'elle allait dire, quel verset de la Bible elle allait citer.
Et elle l'a fait ?
Oui, elle l'a fait, mais moi j'étais très préparé. Donc ça a duré 4 heures. parce que j'avais relevé tous les versets de la Bible dans leur version en grec. Et je répondais, alors ça, c'est le mot qu'utilisaient les Grecs, mais ça ne veut pas dire homosexualité, ça veut dire viol. Et en fait, elle a été tellement déstabilisée par ma préparation, elle était surprise que j'ai toutes ces réponses.
Et donc, vous n'avez pas filmé ce moment-là, ce coup de téléphone qui a duré 4 heures, où vous dites à votre mère que vous êtes homosexuel, mais vous avez choisi de témoigner face caméra après coup et de poster votre témoignage. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Alors en fait, si, j'ai filmé mon coming out à ma mère, mais pour moi-même. Je savais que ma mère ne serait jamais d'accord que je le poste et je ne voulais pas en quelque sorte envahir sa vie privée. Et je ne l'ai pas encore revisionné d'ailleurs, c'est trop dur pour moi. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo après coup parce que je réalise combien je suis privilégié de vivre en Amérique du Nord et d'avoir des amis qui m'acceptent tout à fait.
Je précise que vous avez été au Canada pour étudier le violon puisque vous êtes violoniste. Et puis ensuite, vous avez déménagé aux États-Unis.
Oui. Deux semaines après mon coming out auprès de ma mère, j'ai découvert qu'il y avait un jeune garçon en Russie qui avait été arrêté par la police et son appartement fouillé parce qu'il avait rejoint un groupe de soutien au LGBTQ en ligne. Malheureusement, la situation n'a pas beaucoup changé, donc je me suis dit que c'était la moindre des choses que de faire cette vidéo. Partager mon histoire, montrer non seulement à la communauté LGBTQ que je la soutiens, mais aussi montrer à mes amis de l'Ouest ce qui se passe encore aujourd'hui, leur montrer ce que subissent les gays en Russie.
C'est pour ça que vous l'avez enregistré en russe ?
Oui, c'était principalement pour ça. Et malheureusement, là, le 1er mai, il y a eu des manifestations pacifiques en Russie, à Saint-Pétersbourg, sur l'une des principales artères. Et beaucoup de mes amis ont été arrêtés, alors même qu'ils avaient eu l'autorisation de manifester pacifiquement, de marcher avec des pancartes. Ils ont tous été arrêtés. Les autorités de la ville ont changé d'avis à la dernière minute en prétendant que c'était illégal, alors qu'ils leur avaient précisé les règles, ce qui pouvait être écrit ou non sur les pancartes. Un manifestant, par exemple, a été arrêté pour avoir juste écrit « Je suis ici pour défendre mes droits », pas un mot sur les LGBTQ, gays ou lesbiens, rien.
Vous pourriez vivre dans votre pays aujourd'hui, Artem ?
Je crois que je pourrais. Cependant, là, quand j'ai parlé à mes amis qui ont été arrêtés, ils me disaient « c'est très dur de vivre dans un pays où tu ne sais jamais quand tu vas être arrêté, et ce serait ma vie ».
Vous n'êtes jamais retourné en Russie ?
Je n'y suis pas retourné depuis 10 ans, non.
Est-ce que ça vous manque ?
Ce sont mes amis qui me manquent et j'adorerais revoir ceux qui se sont dévoilés eux aussi après avoir vu ma vidéo. Beaucoup d'entre eux sont mes amis de la paroisse où j'ai grandi et je ne savais pas qu'ils faisaient partie de la communauté LGBTQ et j'aimerais les connaître mieux maintenant qu'on forme une famille. J'espère qu'un jour on se rencontrera quelque part.
Vous n'avez plus de contact du tout avec votre mère, vos frères ?
Ma mère ne me parle plus vraiment. Nos dernières conversations ont été très violentes et agressives, pas du tout productives. Ça ne menait à rien car ma mère me disait encore et encore que j'avais tort, que j'allais brûler en enfer. Ma tante m'a traité d'émanation de Satan, donc bien, j'aimerais savoir lequel de mes parents est Satan. Et malheureusement, ma mère ne veut pas discuter plus que ça. Je lui ai dit que quand elle serait prête à me parler comme une adulte, alors elle pouvait m'appeler, et elle ne m'a pas encore appelé.
Denis Parot, les 19 jeunes dont vous avez gardé les témoignages s'adressent presque tous à leur mère ou à leur grand-mère. C'est un parti pris ou c'est parce que c'est le plus grand nombre de cas que vous avez rencontrés ?
C'est pas du tout un parti pris, c'est pas du tout un choix, c'est ce que j'ai vraiment trouvé en ligne. Je me suis évidemment posé la question. Je pense qu'il y a encore peut-être un cliché sur le fait qu'on imagine les mères plus compréhensives et les pères plus difficiles, je ne sais pas. Ouais. Alors que dans le film, on voit que celle qui réagit le plus mal, c'est une mère.
Il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup de Britanniques. Votre tableau pointilliste nous emmène sur 4 continents, mais pas en Afrique. Est-ce que c'est parce que c'est le continent qui criminalise encore le plus ?
Évidemment, c'est cette raison-là. Je n'ai fait aucun choix par rapport aux vidéos. Il n'y a pas de vidéos qui viennent d'Afrique et du Moyen-Orient, à part l'Afrique du Sud.
Parce que ceux qui les feraient se mettraient en danger.
Oui, tout à fait. Ouais.
Parfois de mort.
Oui, c'est ça. Il y a plus de 70 pays encore qui pénalisent les relations homosexuelles. Et je crois qu'il y en a encore 8 qui punissent par la peine de mort. Donc, ouais.
on perçoit toujours la douleur que représente ce moment de vérité, parce que c'est toujours une douleur que ça se passe bien ou pas, d'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions à chaque fois, mais on perçoit aussi la difficulté que c'est souvent, et parfois même la peur pour les parents de recevoir cette parole.
Oui, moi ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai l'impression que les parents, à ce moment-là, se retrouvent dans cette situation de devoir eux aussi faire leur coming out. C'est-à-dire, ils se retrouvent dans cette situation de dire à leurs amis, à leurs collègues, à leur famille que voilà, ils ont un fils ou une fille LGBT, et ils comprennent tout d'un coup la difficulté de ça.
Et très souvent, ils réagissent en évoquant le choix de leur enfant, mais même souvent en pensant bien faire, en disant bah, « tu as le droit de faire ce choix ». C'est comme un nœud d'incompréhension qui revient dans beaucoup de témoignages.
C'est un cliché qui est très, très, très présent encore.
C'est pas un choix.
Non, ce n'est pas un choix, il faut bien le répéter. Personne ne choisit de naître gay, bi, lesbienne, trans, et même hétéro. Personne ne choisit d'être hétéro, comme le dit Luc, un jeune anglais dans le film.
Est-ce qu'on peut espérer que le film arrive en Russie, en Afrique, qu'il puisse devenir un outil de communication, d'une meilleure compréhension?
Je le souhaite, là, vraiment. Après, c'est vraiment ça devient très politique, je pense.
Internet, peut-être, c'est un outil Internet, pour ça.
Internet, c'est un très bon outil, ouais, tout à fait. Ouais. Après, moi, je ne voulais pas forcément faire un film comme un film militant LGBT, parce que pour moi, il est plus large que ça, j'espère, en tout cas, qu'il aborde des thématiques sur les tabous familiaux, la famille, les relations parents-enfants, s'accepter, se faire accepter par les autres. Pour moi, c'est un sujet plus universel que les thématiques LGBT.
Artem, quelles sont vos blessures aujourd'hui ?
Je dirais que je suis triste de ne plus avoir les mêmes relations qu'avant avec ma famille, parce qu'on était tous très proches de mon enfance. Mais je suis très heureux où je suis maintenant, et j'espère qu'un jour, ma famille me rejoindra dans cette joie.
Et vous aimez toujours votre famille, malgré tout.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Denis Parot, donc réalisateur de Coming Out, qui est sorti mercredi en salle, et Artem, vous qui êtes l'un des 19 protagonistes de ce film. C'est un très joli film, émouvant et utile. Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour la suite.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dernière étape de notre périple aujourd'hui, ce sera quelque part en Autistan avec Joseph Chovanec qui arrive.
Europe 1, les carnets du monde.
Dernière étape, Sophie Larmoyer, c'est notre petite virée hebdomadaire en Autistan avec Joseph Chovanec, bien sûr.
Il est philosophe, grand voyageur, autiste Asperger et surtout chroniqueur fidèle des carnets. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous nous avez encore trouvé une journée mondiale complètement improbable mais qui vous a inspiré.
Mais oui Sophie, demain c'est le tant attendu grand jour, la journée mondiale sans régime. Le jour où on peut enfin tout manger sans limite ni honte. En Occident, on mange un peu de tout tous les jours, mais dans le reste du monde, il y a deux régime. Hein. Au quotidien, la nourriture est souvent terne, plutôt monotone, mais de temps à autre, c'est l'explosion. Un festin où on prend sa revanche.
Ça sent le vécu, ça. Vous pensez à quel endroit du monde ?
Mais au Togo, par exemple, qui est un pays pauvre, hein, il arrive qu'on saute des repas. J'étais bien jeune pendant mon séjour sur place. Une fois, j'avais naïvement demandé à un habitant qui m'accompagnait dans mes visites ce qu'il allait manger à midi. Il m'avait répondu avec un grand sourire, repas togolais. Sur le coup, j'étais presque jaloux de lui, mais en fait, il voulait me dire qu'il n'allait rien manger.
Question de moyens ?
Pas toujours, Sophie. Hein. Parfois, ce sont d'autres facteurs qui poussent à cette nourriture monotone. Le climat, par exemple. Au Tibet, rien ou presque ne pousse. Le repas quotidien est souvent fait de tsampa uniquement. Hein. Ce sont des boulettes de farine d'orge. Avec un peu de chance, on aura droit à un peu de beurre de yak rance. C'est peut-être à cause de cela qu'on se sent tellement spirituel au Tibet. Hein. À la fin d'un séjour là-bas, on m'avait proposé de la viande de yak. En guise de conclusion, couronnement du voyage réussi, je l'ai repoussé d'un geste de la main. Je tenais à ma tsampa. On pourrait multiplier les exemples. À vrai dire, en général, je m'y fais assez bien à ces plats monotones du quotidien. Autisme oblige, la régularité, le non-mélange des goûts me conviennent très bien. Hein, déjà, quand j'étais petit à l'école, je m'étonnais que l'on considère l'opération bol de riz, à savoir le fait de ne manger que du riz blanc à midi, comme une privation. Alors, certes, Sophie pour le repas togolais. J'ai un peu plus de mal.
Ouais. À l'inverse du repas togolais minimaliste à l'extrême, quels sont vos souvenirs de ce que vous appeliez au début les festins?
Oui, inutile d'ajouter que pour un autiste, le temps des festins peut être un peu difficile avec cette socialisation à grande échelle. D'autant plus que, forcément, quand il y a un visiteur étranger, en l'occurrence votre serviteur, il y aura beaucoup de festins, statistiquement parlant. Durant ma période géorgienne, où j'allais souvent dans le Caucase, alors même que j'avais fini par me sentir plutôt à l'aise dans les parages, j'avais eu un choc. La première fois qu'on m'avait invité au fameux banquet géorgien, la soupra. J'étais tiraillé, je ne savais que faire. Je voulais décliner, j'avais très peur de la foule et encore plus peur de la tchatcha, la redoutable eau de vie géorgienne à côté de laquelle les alcools, même russes, passent pour du lait infantile. Toutefois, j'étais aussi très curieux. Ouais. Bref, l'après-midi fatidique, peu avant le début de la soupra, un ami géorgien qui m'avait vu gêné, angoissé, m'avait convaincu de rester en me promettant que je ne serais forcé à rien.
Et alors, c'était comment?
C'était génial. Sans doute l'une des soirées les plus instructives et mémorables de ma petite vie. Alors, dès que résonne le salut traditionnel Gagemajus, que la victoire soit à nous, on entre dans un monde parallèle. Quelques heures plus tard, après des dizaines de toasts à la tcha-tcha, très facile de dire qui est qui. Les étrangers ukrainiens russes compris sont allongés par terre, ivres morts. Les géorgiens sont de bonne humeur, la tête sur les épaules, des épaules massives, carrure locale oblige. Et enfin, on a les autistes, ou plutôt l'autiste, les yeux pleins d'étoiles.
Qui n'a pas vu de tcha-tcha.
Voilà. comme on dirait en géorgien, Or Shabbati Chrom Shabbatiya. Donc le lundi est aussi un samedi. Il n'y a pas de jour pour faire la fête.
Ah, mais j'aime bien cette chute. Il n'y a pas de jour pour faire la fête. Et précisons évidemment que la tcha-tcha est à consommer avec beaucoup de modération.
Et que être autiste est bon pour la santé.
Tout à fait. Et que demain, c'est la journée mondiale sans régime. Donc, merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain.
Et à très bientôt.
Europe 1.
Il est temps de se dire au revoir, de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés en ce dimanche. Au générique, la belle équipe, Sophie Malguet à la réalisation, Florence Gimalac à la production, merci à elle. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures, dès 13h. Nous serons là, d'ici là, surtout, portez-vous bien.
Merci Sophie, à dimanche prochain.